Bien, chers amis, je vous propose que nous nous lancions dans cette formule qui est au cœur de la prière dite du Notre Père, qu'on pourrait d'ailleurs appeler Notre Père, Notre Pain. Et cette phrase que nous allons voir aujourd'hui, c'est celle qui est inscrite sur ce tableau. Ton arton emion, emon, ton epiousion, dos emin, semeron. Et ça, ça nous donne Notre Père. Enfin, Notre Père qui est aux cieux, on lui demande... Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la formule classique que vous connaissez tous, qui va juste poser un petit problème parce que cette traduction qui nous semble d'une simplicité évangélique ne correspond pas au texte grec. Le texte grec, c'est le pain de nous, donc notre pain, jusque-là tout va bien. Ton epiousion, alors ça c'est un sacré bazar, il va falloir qu'on l'aborde de front, mais... c'est pas forcément aujourd'hui. Dos don, emin à nous, semeron aujourd'hui. Le problème, c'est ce mot-là. Epiousion. Alors, epiousion, ça se décortique de deux manières possibles. On peut avoir ici un préfixe, le préfixe épi, comme dans épiphanie, ou épitoge, ou ce que vous voulez. Épi, c'est ce qui est au-dessus d'eux. Hein, épiphanie, ça brille au-dessus de Jésus. C'est la petite étoile du berger qui vient s'arrêter au-dessus du nouveau-né, sauveur du monde. Et Oussion, vous connaissez peut-être Oussia, c'est l'essence d'une personne, d'une chose, un peu la substance dans une certaine mesure. L'essence au sens philosophique du terme, hein, essence, existence. L'existence qui précède l'essence, qui précède l'essence. Donc, epiousion, ça peut se traduire par au-dessus de l'essence. Et d'ailleurs, la Vulgate l'a traduit comme ça. Super substantiel. Super substantiel. Au-dessus de la substance. Au sens de la qualité, pas du fait que on monte sur une chaise et on est sur la chaise, vous voyez. C'est une essence au-dessus de l'essence. Une super. Quand on dit que quelque chose c'est vraiment super, c'est que c'est mieux, en fait. Alors, ça peut être une idée. Epiousion, comme un pain qui ne serait pas à comprendre au sens matériel du terme, mais dans un sens, disons, spirituel pour faire large. Ensuite, il peut y avoir une autre interprétation, une autre façon de décortiquer ce mot, qui en fait est souvent utilisé pour expliquer la traduction qui est retenue par tout le monde, et ce serait en fait de considérer que derrière cela il y a l'expression et yenai. Et yep yenai, c'est ce qui vient, en fait. C'est un rapport avec demain. Ce qui est du coup plus temporel que la première explication. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est ça qui a été retenu? C'est à cause d'un père de l'Église qui s'appelait Jérôme. Jérôme, c'est celui qui a fait la traduction latine, qui est donc connue dans les cercles chrétiens. Et alors c'est peut-être une légende urbaine, mais on dit qu'à un moment donné, il fait un séjour, disons, en Terre Sainte, et il est au contact du manuscrit hébreu de l'Évangile selon Matthieu. Donc, l'Évangile selon Matthieu, qui aurait eu une version, originale ou pas, peu importe, en hébreu. Et comme ce terme est quand même un terme un peu plein de bazar, pour pas dire chaotique, il va se précipiter sur Matthieu, chapitre 6, verset 11, pour voir quel est le mot hébreu qui est derrière. Et là, le mot hébreu, en fait, c'est « ma'ar ». Ma'ar, pour les hébraïsans, que je mets le mot, simplement. Ma'ar, c'est dans le futur, de demain. Et c'est ce qui lui donne cette idée qu'en fait, il faudrait essayer de trouver derrière ce qui vient, en fait. Et c'est ça qui va embarquer le christianisme, pour les siècles des siècles, amen, sur la dimension temporelle. Alors, on va aujourd'hui essayer de résoudre cette affaire qui dure depuis des siècles et des siècles, et on va y arriver, en mettant en correspondance ce verset de Matthieu avec, à mon avis, le texte de la Bible hébraïque qui est le sous-texte, c'est-à-dire le texte qui est convoqué dans cette prière et qui doit nous inspirer pour donner du sens à cette phrase. Et donc ce texte, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, tout le récit autour de la manne. Et tout de suite, la manne, on comprend qu'il est effectivement question de nourriture. Et il me semble que, en étudiant bien ce texte d'Exode 16, on sera un peu plus au clair sur ce que signifie cette demande, qui est effectivement bien traduite, mais là il y a une ambiguïté pour le mot épiousion. Donc, le pain de nous donne à nous ce jour ou aujourd'hui. Est-ce que par rapport à cette phrase de Matthieu, avant qu'on rentre dans le livre de l'Exode, vous avez des remarques, des questions, ou même vous avez peut-être des hypothèses de traduction? Vous avez repéré qu'il y avait des trucs un peu bizarres? Là, je vous fais passer une feuille avec le texte d'Exode 16. Donc, prenez. Vous n'êtes peut-être jamais posé la question, vous êtes dit c'est une phrase qui est compréhensible, donc elle est bonne. Oui, Dorine. Non. Oui. C'est-à-dire que, en fait, comme c'est la version de Matthieu qui a été retenue pour la prière dominicale, c'est effectivement là-dessus qu'on s'est embarqué. Mais on va voir que l'épiousion a, en fait, par rapport au livre de l'Exode, toute sa cohérence. Et qu'il est finalement assez bien choisi. C'est un mot qui est assez peu employé. C'est presque un néologisme. Un néologisme qui, à mon avis, essaie de rendre en un seul mot les quelques dizaines de versets d'Exode 16. Alors, avant de rentrer dans Exode 16, de le lire en français, je trouve qu'on peut commencer par se poser la question sur le plan théologique. Quel est le sens d'une telle demande? Peu importe la traduction d'épiousion. Demandons-nous ce que signifie de demander à Dieu qu'il nous donne le pain quotidien. Allons-y, posons-nous toutes les questions utiles pour donner du sens à cette phrase, en voyant ce qu'elle donne à penser, en voyant aussi ce qu'elle pose comme problème. Vous l'avez tellement assimilé, ce pain ou cette phrase, que en fait...
Elle nous laisse un peu passif.
Ouais.
Non. Dieu est le Père qui donne la vie et qui nourrit ses enfants.
Ou qui laisse mourir les autres. Parce que la question de la famine dans le monde, vous voyez, n'est pas sans nous interpeller sur cette histoire. Et la famine est encore une réalité contemporaine. Alors, qu'est-ce que cela signifie? C'est une question que le croyant doit se poser. Est-ce que c'est à la condition de demander à Dieu qu'il nous donne du pain que nous recevons effectivement du pain? Et est-ce qu'on doit simplement comprendre que les enfants qui meurent de faim sont de mauvais croyants? Et c'est tant pis pour eux. Posons-nous les questions. Parce que c'est à la condition de se poser ces questions-là qu'on trouvera le sens de cette phrase. Ensuite, deuxième possibilité, il y a finalement, en allant plus loin, la possibilité pour Dieu de nous donner des choses d'ordre matériel.
Une force quand même de vie, une force vitale.
Là, vous êtes quand même déjà en train d'interpréter. Mais prenons le pain au sens... du blé, du sel, de l'eau. C'est-à-dire, pour l'instant, on entend qu'il s'agit d'avoir le pain quotidien, hein, son bout de miche. Sans essayer d'interpréter, de spiritualiser, il y a quand même l'actualité qui montre qu'aujourd'hui encore, cela n'arrive pas. En tout cas, ce n'est pas universel. Mais on peut aussi se dire, même pour nous qui avons globalement du pain, est-ce que c'est Dieu qui nous donne ce pain?
À Dieu de nous donner ce pain.
Ce qui est encore une autre question, mais... Et admettons que personne d'autre ne le donne. Est-ce que Dieu le donne? travers le travail de l'homme. Mais, vous voyez, du coup, ça signifie que la phrase telle qu'elle, vous lui résistez. C'est-à-dire que votre expérience personnelle vous fait dire que les choses ne se passent pas aussi simplement que cela. Et que la prière ne consiste donc pas à émettre cette demande pour obtenir une satisfaction illico presto. Hein, c'est-à-dire que si vous vous enfermez dans votre alcôve, comme ça est préconisé au début du chapitre 6, que vous formulez littéralement cette phrase, ce n'est pas en retournant dans votre cuisine que vous découvrirez une miche de pain dans votre panière. Je le dis de façon un peu provocante, mais cette question-là mérite d'être posée parce que la prière et l'exaucement de nature matérielle est quand même quelque chose qui est souvent espéré. Et si ce n'est pas pour du pain, ça peut être par exemple pour des guérisons. Ou ça peut être pour d'autres choses d'ordre matériel qui, dans une certaine mesure, indiquent la passivité d'ailleurs du croyant qui délègue à un autre que lui-même le soin que ce que l'on veut advienne. Ce qui me fait penser à cette histoire tout à fait intéressante parce qu'elle est symptomatique d'une fausse piété. L'histoire est la suivante. Dans le sud de la France, en Occitanie, depuis des semaines et des semaines, pas une goutte de pluie. Et les paysans sont au désespoir, les habitants sont au désespoir, les touristes sont au désespoir, il n'y a quasiment plus d'eau. En dernier recours, on se tourne vers la religion et on demande au pasteur d'organiser une veillée de prière pour demander à Dieu qu'il pleuve et avoir enfin, non pas le pain quotidien, mais l'eau quotidienne. Le pasteur, qui est quand même plutôt sympa que sa communauté, accepte. Et donc, tout le monde se retrouve le jeudi soir au temple pour une prière avec grande ferveur de façon à obtenir la pluie. Tout le monde, le temple est plein à craquer, il y en a dans les tribunes, tout ça. L'organiste commence à jouer, mais il y a tellement de monde et de ferveur qu'en fait, on n'entend même plus l'orgue, vous voyez, enfin, on est... Voilà. Le pasteur monte en chair, il regarde l'assemblée, chacun les yeux dans les yeux, et il commence par dire « Vous n'êtes que des mécréants. » Pourquoi ?
Parce qu'ils n'ont pas de parapluie.
Parce qu'ils n'ont pas de parapluie. Ils sont venus sans parapluie. Et vous voyez, c'est cette idée selon laquelle... En fait, on a cette conviction qu'il faut faire ses prières, mais en fait, on n'y croit pas. Et ça, c'est un peu le drame de la spiritualité mal vécue. C'est qu'on se sent obligé d'avoir une sorte de posture piétiste, alors qu'au fond de soi, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Eh bien, ce texte, qui est un texte biblique, on va le garder, on va l'observer, et on va en faire quelque chose de précieux pour notre spiritualité, qu'on n'aura pas simplement du bout des lèvres, mais qui correspondra à un élément extrêmement structurant pour nous. Et on pourra, comme ça là, avoir son cabas prêt pour mettre les miches de pain. Il faudra juste voir en quoi est fait ce cabas.
Pourquoi on traduit par
« pain de ce jour » Alors, de ce jour à cause de Sémérone. Ce qu'il y a, c'est le « aujourd'hui » qui est de trop. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou notre pain quotidien. Le premier « aujourd'hui » vient moyennement avec le « épi-ousion », sauf si c'est effectivement un « epienai », c'est-à-dire « aujourd'hui » au sens de « le temps qui arrive ». Quoi. Alors, oui.
Une petite remarque par rapport à la tentation de Jésus.
Oui.
Comment ça, Jésus, en fait, un peu plus qu'il a faim.
Oui.
Cette forme, en fait, c'est Pierre, enfin. Et Jésus répond, tu ne tenteras pas, je crois Dieu, enfin je ne sais pas.
Oui.
Ou l'homme ne vivra pas.
Pas de pain seulement.
Voilà,
oui. Mais de toute justice. Ben oui.
Il y a un parallèle avec...
Il y a effectivement un parallèle manifeste. Donc c'est la tentation déjouée en Matthieu chapitre 4, verset 4. Ce texte du Notre Père vient deux chapitres après. Hein. Donc le rédacteur est au courant de ce qui vient de se passer.
Et ce que dit Jésus, c'est Dieu n'est pas ce qui nous procure notre nourriture terrestre. Il y a cette idée véhiculée par Jésus que Dieu n'est pas le grand distributeur de notre nourriture terrestre. On pourrait aussi aller du côté de l'évangile selon Jean, vous savez, avec l'histoire de la Samaritaine, c'est Jean chapitre 4. Il y a tout un malentendu sur l'eau, qui est une forme d'aliment. Et puis, ce malentendu, en fait, se déplace un peu sur la question de la nourriture en général. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 32, il y a Jésus qui leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire dont la nature vous est étrangère. La nature, c'est Oussia. Donc, Jésus est effectivement porteur d'une annonce, d'une nourriture d'ordre divin qui ne relève pas de la substance à laquelle nous sommes communément habitués au quotidien. Donc, on peut aller effectivement sur l'idée du pain spirituel. C'est là-dessus que vous avez envie d'aller et c'est une bonne intuition. Parce que c'est à la fois une façon de s'en sortir par rapport à ce problème physique de Dieu qui donnerait du matériel, or c'est pas le cas. Et puis ça va aller aussi dans le sens des textes bibliques qui nous emmènent justement sur autre chose qu'une matérialité. Alors, le livre de l'Exode, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout d'abord la lecture jusqu'au verset 18, et puis on verra plus rapidement la fin du texte. Donc si quelques-uns pouvaient lire successivement les versets 1 à 18, comme ça chacun prend connaissance. Dans votre Bible ou sur la feuille que je vous ai distribuée, comme vous voulez. Oui, on y va.
Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Élim. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël: ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit: l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et au matin, du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Allez, quelqu'un d'autre.
On est au verset 9.
Il hein. Faut changer de voix.
Oui, très bien.
Dame.
Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël,
Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit : J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur. Entre les deux soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasirez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre : Qu'est-ce que cela ? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné : que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les impurs, les autres moitiés. On mesurait, et ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture.
Merci. Si on pouvait faire passer peut-être une feuille pour Annie. Alors, avant de prendre les versets les uns après les autres, petite question un peu scolaire. Quel est le sujet principal de ce texte ? Pour trouver quel est le sujet principal d'un texte, on regarde un peu le vocabulaire et on voit quel est le vocabulaire dominant. Hein, c'est ce qu'on appelle le champ sémantique. On regarde si il y a des mots d'un thème particulier qui sont particulièrement visibles ou prépondérants dans ce texte. Alors, l'Éternel à ma droite, la nourriture au centre droit, les murmures, l'assemblée. Alors, d'un point de vue objectif, c'est la nourriture qui est la bonne réponse. C'est-à-dire qu'en termes de quantité, de volume, de répétition, c'est le vocabulaire de la nourriture qui prend tout le texte. L'Éternel, quand même assez peu, mais vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de dire que c'est forcément l'Éternel qui est au centre du texte. La question des murmures, bah, en fait, ça frappe notre imagination, parce que le murmure a quelque chose d'un peu mystérieux, peut-être un peu maléfique, on sent que c'est quand même pas la bonne disposition... Ça devrait pas avoir lieu, etc. Bon, il est question trois fois du murmure, grosso modo. Hein. Si vous surlignez tous les mots qui ont rapport avec la nourriture, là, par contre, vous avez plus de 20 occurrences. Hein, entre le verbe rassasier, la satiété, la viande, les grains, la nourriture, le pain, le manger, etc. La viande. Bon. Donc, on a un texte qui est vraiment construit sur la question de la nourriture, comme notre verset biblique. Est construit sur la question du pain. Et alors maintenant, on va prendre les versets les uns après les autres, et on va à la fois voir qu'il y a effectivement des correspondances avec ce verset de la prière de Matthieu, et puis matière à penser un peu plus que ce seul verset de la prière nous indique. Alors, le premier verset est surtout une sorte de mise en scène. Ça nous rappelle que le peuple hébreu est sorti d'Égypte, qui est symboliquement la maison de servitude. Le but, c'est d'aller en terre promise. Mais entre l'Égypte et la terre promise, il y a le désert. Les Hébreux sont en plein désert. On reparlera du désert tout à l'heure. Dans le verset suivant. Et... ils sont au 15e jour du second mois après cette sortie d'Égypte. Voilà. C'est un mois et la moitié d'un mois. Ah oui. Très bien. Et c'est toute l'assemblée qui est là, convoquée, qui est rassemblée dans une seule phrase, et du coup, on a bien le « nôtre ». Vous voyez, cette prière du Notre Père est censée se faire très individuellement. On est dans le secret de notre alcôve, fermé à clé, isolé. La première chose qu'on dit, c'est « Notre Père, notre pain ». Donc, on convoque les autres. Toute l'assemblée est en fait présente dans la prière. C'est intéressant parce que cela montre que cette demande n'est pas une demande égoïste. On pourrait se dire que la prière qui permet le face-à-face de l'individu avec Dieu est une prière qui a tendance à favoriser l'individualisme. En fait, non, c'est une prière qui favorise l'altérité. La présence de l'autre est indiquée dès les premiers mots et ici même, c'est toute l'assemblée des enfants d'Israël qui est en chemin. Et c'est toute l'assemblée des enfants d'Israël qui va murmurer dans le désert contre Moïse et Aaron. Alors, dans le texte hébreu, le murmure, c'est sur Moïse et sur Aaron. C'est un peu plus neutre. Al, en hébreu, c'est au-dessus d'eux, sur. Alors, bien sûr, il y a l'idée un peu de contre, mais on aurait une particule pour dire le contre, c'est le lamed, le, l, vert, et, ou alors même be, contre, dans et contre. Ici, c'est au sujet d'eux. Vous voyez, quand on parle au sujet de quelqu'un, c'est un peu plus neutre que quand on dit qu'on parle contre quelqu'un. Et quand on murmure sur quelqu'un, c'est un peu plus neutre que quand on murmure contre quelqu'un. Donc, restons calmes sur la traduction. La question est, pourquoi murmure-t-il ? Alors, chronologiquement, on peut avoir une explication, qui est en général celle qu'on donne habituellement. Pourquoi est-ce que toute l'assemblée va murmurer sur au sujet de Moïse et d'Aaron ? Quelle est la nature de leurs propos ? Allez. Alors, ils n'ont plus rien à manger, disons. Ouais. Oui, mais est-ce que ça, c'est une raison pour murmurer sur Moïse et Aaron ? Quand vous n'avez pas dans votre frigo, vous commencez à râler sur votre pasteur, vous ?
Ils ont pourvoyé.
Alors, Dorine, d'abord. Donc, c'est Moïse et Aaron qui sont les figures de pouvoir et d'autorité, donc on se tourne vers eux pour régler le problème, c'est ça ?
Non, on pourrait murmurer contre, parce que bon, quand on n'est pas content de quelque chose, en effet, ça sera vers les personnes qui sont responsables.
D'accord.
Qu'on va se tourner.
S'il y a du chômage, c'est la faute du gouvernement. Mais oui.
Ils considèrent qu'on les a fourvoyés.
On les a trompés sur... la promesse
sur
n'est pas tenue. Ouais, la promesse n'est pas tenue. Il peut y avoir une sorte de déception. Est-ce qu'elle est légitime, cette déception ? Mais oui ! Mais bien sûr ! Oui, oui. Ouais, d'autant qu'on a vu les versets suivants où ça va être particulièrement dit. Vous voyez, quand je vous dis qu'en fait, il faudrait qu'on ait une traduction un peu plus neutre que celle qui est proposée nous met dans la tête que toute l'assemblée est finalement dans une attitude d'hostilité qui n'est pas très légitime. Vous voyez, on a déjà envie de mater la révolte. Et en fait, quand on est un peu plus honnête, on se rend compte que leur lamentation ou leur plainte est légitime. Comme pourrait l'être notre propre plainte. Et ce qu'ils vont demander, c'est « donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». On en a besoin, on va quand même pas mourir là dans le désert. Et d'ailleurs, dans l'épisode, quelques chapitres plus tard, du veau d'or, vous savez, le peuple n'en peut plus de ne pas voir Dieu. Alors ils vont prendre tous leurs bijoux, leurs colliers en or, ils vont fondre, ils vont faire une statuette en forme de veau. Ce qui n'est pas très glorieux, mais bon, c'est un peu l'ironie du texte. Et puis Aaron sera là en disant « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Vous voyez, le polythéisme en plus, enfin, on a tout ce qu'il faut. Et pendant ce temps-là, Moïse est sur le Sinaï, en train de discuter avec Dieu, avec le don des 10 paroles, etc. Et Dieu est en colère. parce que le peuple est en train de le conspuer. Et Moïse va essayer de négocier avec Dieu, c'est donc Exode 32, pour que la colère cesse et qu'il continue à s'occuper d'eux. Et quel est l'argument de Moïse? C'est de dire, enfin, t'as quand même pas tout fait tout ça pour nous laisser mourir dans le désert, quoi. Vous voyez? Eh bien, c'est exactement ce que disent les Hébreux ici. On n'a quand même pas fait tout ça pour mourir dans le désert. Et ça, c'est légitime. Eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est que les textes bibliques sont beaucoup plus tolérants, ouverts et respectueux des plaintes, des récriminations formulées contre les chefs religieux, voire contre Dieu, que nous ne le sommes nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une lamentation, au sens biblique du terme, qui est formulée, eh bien, on va en faire quelque chose. Donc ça, c'est sur le plan chronologique. Sur le plan plus spatial, c'est pas très étonnant qu'ils murmurent, en fait. Parce qu'ils sont dans le désert. Et alors, le désert, comme c'est un mot qui revient souvent, ça vaut le coup quand même d'aller le voir un peu en hébreu et que vous reteniez cela. Le mot désert, vous l'avez bien sûr dans votre texte. Si je prends le verset 2, c'est le dernier mot du verset 2.
À droite ou à gauche?
Avant le 3. C'est juste avant le 3, il y a un mot qui est isolé. C'est dans le désert. Hein? Bemidbar. Vous voyez, il y a plusieurs lettres. Alors, Bemidbar, en fait, le premier mot, c'est dans, be. Et puis après, il y a midbar, comme ça. Vous l'avez ce mot-là?
Oui.
Bemidbar. Donc ça, c'est dans le désert. Donc désert, ça se dit midbar. Et en fait, midbar, ça peut encore se redécomposer facilement. Parce que le même au début, c'est souvent ce qui indique l'origine ou la privation, le min. Min dabar. Dabar, c'est un mot que vous devez connaître par cœur, ça veut dire parole. C'est la parole qui structure, c'est la parole qui fait loi. Il y a un autre mot pour dire la parole, c'est amar. On pourrait dire que ça c'est parler et ça c'est dire. C'est un peu, on peut en trouver des distinctions. Et alors il y a juste une confusion qu'il faut éviter d'avoir tant qu'on fait une grande digression. Ça c'est le verbe utilisé dans le récit de la création en Genèse 1. Hein, Dieu n'arrête pas de causer, c'est le verbe amar, voyomer, et hop, Dieu dit qu'il est la lumière et la lumière fut. C'est ce verbe-là, c'est pas celui-là. Et c'est une grande confusion que l'on retrouve dans une expression très populaire que vous connaissez tous. Abracadabra. Abracadabra. C'est de l'hébreu en fait. C'est Ubra Kudbar. Il a créé comme il a dit. Hein, bara, c'est le verbe de la création. Et en fait, la confusion, c'est qu'on imagine que Dieu a créé avec ce verbe-là, alors qu'en fait, c'est avec ce verbe-là. Donc, comme vous allez faire les malins maintenant en société, vous direz, c'est pas abracadabra, c'est abracahamara. Abracahamara. Il a créé comme il a dit. C'est-à-dire que c'est en disant, en parlant, que les choses se créent. Et si, comment dire, il y a des paroles qui font ce qu'elles disent. Si je vous fais une déclaration d'amour, vous allez vite comprendre que c'est du sérieux. Ouais. Et vous allez être complètement retourné, bouleversé, et le monde ne sera plus le même. Et il pourra neiger et venter, vous aurez l'impression que la journée est merveilleusement belle. Bon, il y a des choses comme cela. Ouais. Si on dit à quelqu'un, par contre, qu'on le déteste, bon ben, vous voyez, ça change aussi son univers. Après, il y a des paroles qui n'ont pas beaucoup de sens ou qui sont très superficielles. Bon, donc. Le désert, pour revenir à notre désert, c'est le lieu sans parole, en fait. Min dabar, c'est le lieu... Min, c'est le privatif. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bruit. Dans le désert, le bruit qu'il y a, c'est le bourdonnement. Le bourdonnement de l'abeille, Déborah. Déborah, c'est l'abeille. Déborah, c'est le bzz, hein, ça bourdonne, on ne sait pas trop d'où ça vient, ça. Bon. C'est le désert, c'est pas le lieu de la parole.
Non, on médite.
Oui, alors ça, c'est parce que vous avez un rapport très positif. Mais quand, quand vous êtes un peu moins en train de faire le touriste avec toute l'eau qu'il vous faut...
Le désert,
c'est ça. Oui, c'est ça. Ça ou alors le désert avec les camisards, enfin bon, c'est encore autre chose. Donc, le lieu privé de parole, vous voyez, est quand même pas très propice à une parole qui va redonner de l'espérance. Et il est du coup compréhensible que le peuple ne soit pas capable de faire autre chose que murmurer. Je veux défendre le peuple contre les théologiens qui considèrent que le peuple a toujours tort. Le peuple est finalement pris dans des contraintes qui l'écrasent un peu. Et la pente naturelle dans le désert, c'est de murmurer. Et la pente naturelle, quand on a faim, c'est de demander des plats remplis. Bon, comprenons donc le peuple et voyons comment ça fonctionne pour la suite. Donc les enfants d'Israël, au verset 3, disent à Moïse et Aaron, qui sont les chefs, « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Alors, « par la main de l'Éternel », ça peut être « dans la main de l'Éternel ». Si vous regardez le texte hébreu, « be'ad ya'ou », le « be », c'est « dans » ou « contre ». Par, c'est... Bon. On pourrait imaginer que le peuple dise, au fond, ils auraient aimé trouver le repos éternel dans la main de Dieu. Vous voyez, quelque chose comme cela. C'est pas forcément, on aurait préféré encore que Dieu nous achève. Comme on achève bien les chevaux. Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez... Alors, mener, vous voyez, ça nous avait fait sortir, en fait. C'est le verbe yatsa. Sortir, c'est le verbe qui dit l'exode. Alors, c'est plus le fait de sortir de quelque part que de sortir vers quelque part. C'est être arraché à une situation qui était invivable. Et on parle de la sortie d'Égypte. C'est vraiment un thème récurrent. Et donc, plutôt que mener, il vaudrait mieux traduire par « Vous nous avez sortis dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Bien. Oui.
Deux choses de remarques.
Oui.
Parce que c'est « militaire ».
C'est ?«
Militaire ».
Oui.
C'est qui nous laissera finalement, qui nous laissera mourir dans la main de Dieu ? Et la traduction, c'est que nous sommes morts. C'est, moi, ça m'avait posé question. Et puis après,
oui.
Alors qu'au début, c'était toute l'assemblée est là. Et du coup, on a deux mots différents et qui ont des sens différents. Avec une. La Kaal, où c'est plutôt un groupe de personnes qui arrivent pour, qui se retrouvent, qui se réunissent pour quelque chose, dans un but particulier, alors que Edat, c'est plutôt un groupe de personnes qui sont...
Qui est déjà constitué.
Voilà, oui. Une spécificité, oui. Déjà.
Kaal, c'est plus l'assemblée de gens appelés.
Voilà, et du coup, enfin, moi, ça m'a fait renvoyer à la notion d'église. Enfin, parce que ça, c'est quelque chose de plus...
Oui, Kaal, c'est un mot hébreu qui donne Kohelet. C'est le verbe, c'est le livre biblique Ecclésiaste. Et du coup, Kaal, Église, Kohelet, Ecclésiaste. Et donc là, on a effectivement deux façons de parler des enfants d'Israël, soit avec un mot qui veut dire, au fond, la communauté des gens qui se retrouvent avec quelque chose de commun dans leur identité. Et puis Kaal, c'est plutôt le fait que ils sont appelés à se constituer alors qu'ils n'ont pas forcément repéré au départ qu'ils avaient un trait commun.
Oui. Et moi, ça m'a renvoyé à cette notion d'église. Et d'un côté, il y a ceux qui sont, en fait, l'église est là quand les personnes ont la parole,
oui.
Ou sinon l'église est là. Ce sont ceux qui sont, par exemple, tous les baptisés, enfin voilà, qui ont déjà une marque. Et finalement, bon, c'est... Bon, ça va au-delà du texte.
À la fois, ça va au-delà du texte, et puis en fait, ce que le texte nous dit, c'est que on parle, enfin, c'est les deux caractéristiques qui sont convoquées ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une des deux types d'églises qui pourrait se prévaloir de « Ah, nous, on n'a pas trempé dans cette affaire ». Si on voulait faire une sorte d'analogie, on pourrait dire « Il y a les chrétiens historiques et les chrétiens convertis, par exemple ». Et bien, en fait, les deux sont au même niveau. C'est-à-dire que les... Allez, je suis un peu dans le paroissial. Les protestants qui ont leur nom inscrit au musée du désert au-dessus de la rame, et puis ceux qui, il y a encore 6 semaines, ignoraient qu'ils étaient protestants, ces deux-là, dans cette situation, réagissent de la même manière. Donc on ne peut pas se prévaloir, vous voyez, d'une sorte de titre de noblesse, mes ancêtres les protestants ou mes ancêtres les chrétiens, m'exonéreraient de toute inclination vers ce murmure, vers cette récrimination. Il y a dans ce verset un mot aussi que vous pouvez apprendre par cœur si vous ne le connaissez pas, c'est l'erem, ça veut dire pain. Pain, c'est l'erem. C'est un mot que vous avez déjà entendu, l'erem ? Ouais, quelqu'un d'autre que Dorine a entendu ce mot l'erem quelque part dans sa vie ? Oui. Dans quelles circonstances ? Hein ? Alors en fait, oui, sauf que là, c'est autre chose, parce que c'est l'air, c'est vers vous. L'RM, c'est vers vous. C'est pas ce mot-là. C'est avec un kaf et pas avec un ret. Bon, je sais, c'est comme ça à l'oreille, même moi, c'est pas très net. Non, mais en général, tous les 25 décembre, vous en entendez parler. Parce que Jésus est né à Bethléem. Hein ? Bethléem, en fait, c'est Bethléem. C'est la maison du pain. Jésus qui naît dans la boulangerie, en fait. Vous voyez que c'est pas complètement sans rapport avec notre texte, en fait. Parce que donne-nous notre pain. Si on se souvient que c'est Jésus qui naît dans la boulangerie, ça veut dire que Jésus a des chances d'être un peu le pain, quoi. Ce qui, d'ailleurs, va être un peu ce qu'il dira aussi bien en Jean chapitre 6 avec « Je suis le pain de vie » que, en fait, au moment du dernier repas avec ses disciples. « Ceci est mon corps », quand il prend du pain, ça peut... Alors, c'est souvent compris comme « ce pain, c'est le corps de Jésus ». Mais en fait, Jésus le dit peut-être dans l'autre sens. « Mon corps, c'est du pain », c'est-à-dire « mon histoire personnelle, c'est une nourriture pour vous ». Ouais. Ça nous emmène sur une lecture non matérielle du pain et de ce verset du Notre Père. Donc, vous nous avez fait sortir de ce désert pour mourir de faim, cette multitude. Ils étaient assis près des pots de viande, etc. Bon, et petite page culturelle, est-ce que ça vous fait penser à un texte de la littérature française ? Alors, quel est le texte de la Boétie ? Discours sur la servitude volontaire. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre texte que vous connaissez qui lui est semblable ? C'est-à-dire, même thématique, mais pas de la Boétie. Vous avez vu à l'école primaire. Par rapport à la Boétie, en quelques phrases, vous pourriez dire un peu le contenu de son propos ? Surtout sur le verset 3, on sait que nostalgie de la servitude. Oui. Quel chef suivre ? Moïse à Aaron, ou retourner à une servitude, pas confortable évidemment, mais une structure, voilà. Retourner dans une structure, même si... On se rend compte que parfois la servitude est plus confortable que la liberté. Mais je défendrai le peuple malgré le peuple. C'est La Fontaine qui a écrit là-dessus, avec le chien et le loup. Le chien qui rencontre un loup, et en fait c'est effectivement la question de la liberté qui est en jeu. Le chien trouve le loup bien famélique, et le loup trouve que la marque du collier sur le cou du chien est pas très réjouissante. Donc, on est dans un choix moral. Est-ce qu'on préfère la sécurité à la liberté ? voyez, ça se joue un peu dans ces termes-là. Préfère-t-on le confort ou la liberté? La liberté implique une forme d'inquiétude et une incertitude. Et la sécurité ou la satiété implique une diminution de ces degrés de liberté. Faites votre choix, c'est pas moi qui le ferai pour vous. Et c'est cette question-là qui se pose, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que le peuple ne veuille pas de la liberté. Et ça, c'est le drame de tous les responsables spirituels religieux, c'est qu'ils sont toujours confrontés à des communautés qui ne veulent pas de la liberté.
Ils ont été esclaves trop longtemps.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est toujours esclaves ou toujours aliénés, vous voyez, pour prendre les bons termes des années 60, etc. La liberté, en dépit de ce qu'on lit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce n'est pas notre situation naturelle de départ. On ne naît pas libre. On peut le devenir, c'est tout le projet de la Bible, mais force est de constater que quand nous naissons, nous ne sommes que dépendance. Ça commence par la dépendance alimentaire. Il faut qu'un jour, il paraît, nous soyons sevrés pour commencer à être un peu autonomes. Ouais. Mais ensuite, on est dépendant du désir de nos parents. On est dépendant, bien sûr, du milieu social dans lequel on évolue. On est dépendant des rencontres que nous faisons. Jusqu'au moment où nous commençons à être un peu maîtres de nous-mêmes. Et la liberté, c'est le pouvoir que nous exerçons sur nous-mêmes. Et nous décidons, à un moment donné, de choisir les personnes que nous rencontrerons, les lieux où nous vivrons, et puis aussi tout ce que nous refuserons.
Depuis, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités à la naissance.
C'est juste. On peut très bien maintenir quelqu'un en captivité sans qu'il ait l'impression d'être captif. Parce que dès la naissance, on l'a contraint. Et au fond, c'est quand même assez facile de contraindre quelqu'un. Oui, tout à fait. Surtout si on le prend dès le départ. Un enfant peut être soumis à ses parents dans la mesure où il n'imagine pas qu'il puisse en être autrement.
Parce qu'ils sont jusqu'à leur mort, même.
Mais bien sûr. Puis après, oui, tout un autre tas de dépendances, c'est que il peut y avoir des dépendances d'ordre symbolique. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui s'arrangent pour faire comprendre à leurs enfants qu'ils ont une sorte de dette à leur endroit. Ils leur ont donné la vie.
Pour jouer la corde sensible.
Oui, oui. Mais oui, il peut y avoir des. Après, ce qu'on appelle des perversions, c'est-à-dire. On dit, je t'ai donné la vie, tu nous dois donc le respect, etc. Ben non, donner, c'est donner. Bon. En fait, on t'a prêté la vie. Ouais. On a investi sur toi pour notre retraite. Vous imaginez tout ce que vous voulez. Mais bon. Ceci pour dire que la question de la liberté n'est pas une donnée de départ. Que c'est une construction et une lutte, dans une certaine mesure. Bon. Moïse et Aaron vont se trouver face à une communauté qui, en fait, n'en veut pas de la liberté, parce que c'est pas confortable. Comme on dirait par ici, nous, ce qu'on veut, c'est être tranquille. Bien. Eh bien, c'est pas gagner la tranquillité avec la liberté. Alors, le verset 4, vous voyez, il y a quelque chose de sympathique. Le rédacteur biblique est plein d'humour. Il est extrêmement sérieux, mais d'une légèreté savoureuse. Faire pleuvoir du pain. Quand on y pense, quand même, c'est paradoxal.
Vous avez parlé de la manne.
Oui. Alors, comme le terme va venir tout à l'heure, on va, je vous assure, passer un bon moment sur la manne. Mais la manne, ça sera au verset 15. Pour l'instant, on est au verset 4. Il fait pleuvoir. Je ferai pleuvoir pour vous du pain. Ouais, ça, c'est excellent quand même. Ça montre qu'il y a une sorte de décalage, vous voyez. Et en fait, on va assister à toute une série de décalages entre la demande du peuple et l'exaucement. Eh bien, ça, c'est le trait caractéristique de la prière authentique. La prière n'est pas forcément de l'ordre de la demande. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que sur le plan purement théologique, la prière ne devrait pas être une prière de demande. Mais quand elle l'est, et après tout, la prière c'est un espace de liberté, nous pouvons tout dire, y compris des demandes farfelues ou qui ne seront pas accomplies. Eh bien, quand on demande quelque chose, la prière exauce en opérant quelques petits décalages. Je dirais que la prière, c'est ce qui permet d'évangéliser notre demande, par petites impulsions, par petits décalages successifs. Il y a une prière comme ça, que des fois j'utilise d'ailleurs pour le culte dimanche matin, qui dit, grosso modo et en substance, « Je t'avais demandé de me consoler et tu m'as donné des amis à consoler. » Vous voyez, ça c'est carrément la conversion. « J'avais faim et tu m'as donné des hommes à nourrir. » Vous voyez, bon. Bon. C'est l'idée selon laquelle la prière permet de se décaler, de changer de regard, d'adopter une autre posture vis-à-vis des événements. Donc, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Donc, vous voyez, là aussi, quand on y pense, comment du pain pourrait-il tomber du ciel ? Il y a quand même un problème de gravitation, un problème de densité. Et à cette époque-là, ils n'étaient pas plus bêtes qu'à notre époque. Ils savaient bien qu'il y avait une force de gravitation. Bon. Et aujourd'hui encore, avec tous les satellites qu'on a envoyés dans l'univers, on a vu qu'il n'y avait pas trop de pain dans le ciel, ni autre chose d'ailleurs. Enfin bon. Bon, je le dis un peu sous l'angle de la taquinerie, de la polémique, mais c'est pour évacuer cette idée qui pourrait être un peu sous-jacente que, bon, quand même, ça pourrait se passer comme ça. Shamaïm, c'est là et là. Hein, vous vous souvenez? Notre Père qui est aux cieux, Sham. Shamaïm, c'est là et là. Donc ça veut dire, il y aura plusieurs sources pour votre nourriture. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est là aussi un décalage est très important de la prière. On peut avoir cette vision peut-être un peu enfantine. Disons, on se concentre, et puis on s'adresse à Dieu, et on lui demande quelque chose de très précis. Et ce que l'on attend, c'est que Dieu, très précisément, réponde à notre prière. Mais Dieu en personne. Ce que ce texte dit, c'est que c'est Shamaïm. C'est depuis Shamaïm, c'est depuis là et là. C'est-à-dire que la source de l'exaucement est peut-être pas là où on l'imagine. C'est-à-dire que nous pouvons être exaucés, mais par des modalités, par des chemins qui ne sont pas forcément ceux qui nous semblent les plus évidents. Et donc, maintenons l'exaucement de la prière, à la fois en termes de décalage par rapport à la demande. Peut-être que ce que l'on veut n'est pas ce dont on a besoin, et la prière va exaucer nos besoins et pas nos vœux. Et puis, il se pourrait que la prière soit exaucée par d'autres canaux que les canaux officiels ou les canaux qu'on imagine être les bons. Donc, une fois de plus, si on imagine que la prière c'est d'obtenir immédiatement, en direct avec le ciel qui s'ouvre, la lumière qui arrive, quelque chose dans les mains, le texte biblique nous dit « non, ça marche autrement en fait voilà. ». Je vous dis ça comme ça, si jamais on vous dit « mais pourtant c'est comme ça que ça devrait se passer ». Non, les textes bibliques disent autrement, « Shamaïm ». Et là, le peuple sortira, donc c'est le même verbe qu'on a eu au verset suivant, c'est « yatsa ». On continue à sortir. Et voyez, le premier bénéfice de l'exaucement, c'est que ça nous sort de l'endroit où nous sommes. Ça nous secoue les puces, en fait, l'exaucement. Ça nous évite de nous encrouter, de nous enquister, de nous fixer. La prière est de l'ordre du déplacement. L'exaucement de la prière nous fait sortir du lieu où nous avons tendance à nous tenir. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Jour par jour, vous voyez, c'est cette idée que c'est quotidien. On est bien avec notre phrase du Notre Père, c'est aujourd'hui. Et puis demain, ça recommencera pour aujourd'hui, ainsi de suite. Et dans une certaine mesure, ça a pu contaminer un peu la traduction. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ou donne-nous notre pain quotidien, c'est cette idée que c'est jour après jour. La quantité nécessaire. Afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. La quantité nécessaire, c'est encore un décalage par rapport à ce qui précède. Ce que le peuple veut, c'est les marmites pleines. C'est le buffet à volonté. Ce qu'il va avoir, c'est ce dont il a besoin. Pas de gâchis. Et il y a une sorte de sobriété heureuse. C'est cette idée selon laquelle le peuple a peur de manquer. Et la réponse, ça ne va pas être « Ok, très bien, alors on va faire des provisions et tu auras ton stock. » Non, non, c'est la promesse, c'est que tu auras ce dont tu as besoin. Et après tout, c'est quand même très intranquille, parce que jusqu'à ce qu'on mange la dernière bouchée, on n'est pas sûr d'avoir suffisamment. Et tant qu'on n'est pas encore rassasié, on se dit « Mais est-ce qu'il va y en avoir assez ?» Oui, c'est ça. Quand il y a buffet à volonté, et à la limite quand on sait qu'on peut gâcher, bon ben ça va, on sait qu'on repartira le ventre plein, tranquille. Mais là, il y a l'idée selon laquelle on est dans une autre économie en fait. Comme il y a un trésorier au moins dans notre salle, c'est vrai aussi pour l'Église. Vous voyez, on peut se dire, il faut impérativement que nous ayons des réserves. La fameuse poire pour la soif. C'est peut-être pas aussi évident que ça. Peut-être que l'Église n'est vraiment elle-même que quand elle a ce dont elle a besoin, jour après jour. Mais peut-être... Ouais, mais j'entends bien, mais... Vous voyez, simplement, j'interroge une attitude qui est aussi la mienne. C'est qu'on se dit, il faudrait qu'on ait des réserves, je sais pas, 3 mois de fonctionnement devant nous, vous voyez, des choses comme ça. Mais... Est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que c'est bon pour la santé de l'Église? C'est une question, et il ne s'agit pas d'y répondre maintenant, mais on peut se le dire pour nous. Qu'est-ce que ça traduit, le fait d'avoir des placards pleins de conserves? D'acheter des kilos de sucre quand il commence à y avoir un problème dans le monde? Enfin bon, j'extrapole. Bon. Voilà. Interrogeons-nous. On va voir au verset 15 que ça sert à ça, en fait, ce qui se passe là. Bon. Donc la quantité nécessaire, en tous les cas, c'est pas ce qu'avait demandé le peuple qui voulait les marmites pleines. Voilà. Oui.
Il y a 2 variantes, justement, dans le texte.
Oui.
Aussi, la parole du jour, enfin on peut, là ils vont traduire la quantité nécessaire, mais c'est aussi la parole du jour.
Alors, dites-moi, à quel endroit?
Le 4.
Oui.
Verset 4.
Oui.
Et le peuple sortit.
Oui. Oui, la 4. Oui, d'accord. Ah oui, j'ai compris, 2 variantes. Non, c'est 2 barium, c'est la parole du jour.
La parole du jour,
voilà.
Oui.
Absolument.
Ils ont traduit par la quantité nécessaire.
Oui.
Ça va plus loin.
Oui, ça va plus loin. Alors, d'abord, c'est le mot qu'on a vu en haut, là, qui est dans l'hébreu au verset 4. Ce qu'on cueille, c'est donc dabar yom beyomo, donc le jour selon son jour, donc c'est au jour le jour, disons. Et dabar ici qui a été traduit par quantité, ça peut correspondre en fait à ce qui a été annoncé en fait. Vous voyez, quand je disais, c'est la parole qui est structurante. C'est justement le besoin qui est exprimé ici, plutôt que la revendication. D'abord, c'est la parole qui fait loi, et donc c'est en quelque sorte la bonne norme. Si je voulais essayer de restituer l'esprit du rédacteur hébreu par rapport à la traduction. Donc c'est... effectivement une bonne indication sur le fait que ce que le peuple va récolter est de l'ordre plutôt du dire, de la parole, que de l'ordre du gluten et autres éléments de cette nature-là. Et d'ailleurs on le voit, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. L'épreuve, c'est en fait est-ce que le peuple se satisfera de cette économie? Est-ce que le peuple se satisfera de cette nourriture? Est-ce qu'il va en faire son miel, si je voulais filer la métaphore? Un enfant vous demande du Nutella et vous lui faites une tartine avec de la confiture maison. Est-ce qu'il va l'accepter, ça? Alors, ça n'a pas le même goût, mais la question, c'est va-t-il réinterroger sa demande? Parce que du coup, la demande, c'était est-ce que je veux du Nutella, soit parce que le goût me plaît, soit parce que c'est chic de manger du Nutella, c'est à la mode, etc. On en parle beaucoup, donc j'en suis aussi. Ou est-ce parce qu'il avait faim, parce que c'était l'heure du 4 heures? Quand on a faim, ça, c'est, vous savez, les parents disent ça, si t'as vraiment faim, tu finis d'abord tes haricots et après, tu auras du dessert. Bon, est-ce que c'est vraiment la faim qui l'a motivé ou est-ce que c'est autre chose que la faim? Voilà. Mais est-ce que c'est un caprice, vous voyez, si je caricature, ou est-ce que c'est un besoin alimentaire de nourrir son corps? Oui, envie de Nutella, mais est-ce que c'est besoin de Nutella? Vous voyez la différence?
Ah oui.
Je veux du Nutella et puis je veux marquer mon territoire et puis je veux que tu me donnes le Nutella que je veux. Enfin, oui, bon. Cela permet en fait d'interroger la demande. La mise à l'épreuve, vous voyez, c'est pas une sorte de piège, c'est pas fait pour trébucher une épreuve. Une épreuve, c'est pour faire le point. C'est comme une évaluation. Prenons le terme évaluation qui, en régime anglo-saxon, est beaucoup plus neutre. En France, les évaluations, c'est toujours une catastrophe, on dit on va se faire juger, condamner, etc. Non, l'évaluation, c'est de faire le point pour améliorer ce qui peut l'être. C'est neutre aussi. Eh bien là, c'est pareil. Prenons l'épreuve sous l'angle de la neutralité. Hein, c'est une évaluation, c'est pour faire un point, c'est une sorte de test. Et pas un test pour piéger, pas un test pour faire redoubler, pour faire échouer. Oui. Prenons le texte biblique de façon beaucoup plus neutre, sans trop projeter sur nos angoisses personnelles, en fait. Bon, peut-être que vous n'aviez pas d'angoisse par rapport à l'épreuve, ceci dit. Afin que je voie s'il marchera ou non selon ma loi, c'est-à-dire selon ma Torah. Selon ma Torah ou non. Et Torah, c'est Yara, c'est instruction. Hein, il ne faut pas imaginer que c'est le code pénal. La Torah, l'instruction, c'est l'ensemble de toutes ces paroles qui nous aident à vivre. Qui ne sont pas là pour nous enquiquiner, qui ne sont pas là pour empoisonner notre vie, qui ne sont pas là pour réduire notre liberté, mais au contraire, pour nous maintenir libres. Je vous rappelle que la première des 10 paroles, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. » Sous-entendu, les paroles qui viennent, c'est pour éviter que tu retournes en Égypte, même si les marmites sont pleines de viande. Parce que ce n'est pas un lieu pour vivre. Oui.
Oui, alors il y a un autre aspect que j'ai en tête. Vous ramasserez juste la quantité pour un jour.
Oui.
Ça sous-entend. Vous devez avoir confiance dans ma promesse de vous en donner tous les jours.
Oui. Oui.
Bon, ça, c'est encore en plus.
Oui. Oui. Bien sûr.
Parce que, malgré tout, le réflexe, c'est peut-être de dire, à tout hasard, si jamais il change d'avis...
Bien sûr. Et bien sûr. Et soyons honnêtes, reconnaissons que c'est quand même comme ça qu'on fonctionne.
C'est pour ça que ça vient à l'esprit.
Mais oui. Et Jésus a une réponse à ça. C'est oligopistoi, gens de peu de foi. Oligo petit, pistos la foi. Petite foi, parce que, en fait, globalement, on se fie plus à nous qu'à la promesse qui nous est faite. Bon, c'est la fameuse petite poire pour la soif. Ici, ce qui est dit, c'est ce que Jésus redira d'ailleurs dans le sermon sur la montagne, presque à côté de son Notre Père, à chaque jour suffit sa peine. Ne te préoccupe pas du lendemain, le lendemain se préoccupera bien de lui-même tout seul. Il faut l'entendre, on va l'entendre d'ailleurs avec ce texte, il faut l'entendre non pas comme une sorte d'insouciance par rapport au lendemain, mais comme un vrai souci pour aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on est trop obsédé par demain, on oublie tout simplement de cueillir ce qu'il y a à cueillir aujourd'hui. Et en fait, quelle est cette promesse? C'est que aujourd'hui, il te sera possible de cueillir tout ce dont tu as besoin. Si on le disait sans le vocabulaire religieux, On pourrait entendre quelque chose comme...
Carpe diem.
Oui, alors carpe diem, mais c'est aussi quelque chose comme... la vie est en mesure de nous offrir ce dont nous avons besoin. Il y a une promesse par rapport à l'existence, en fait. C'est-à-dire que même quand on disait pour ces personnes qui sont pas aussi bien parties dans la vie, etc., du côté de la vie, il y a ce qu'il faut pour que ces jeunes puissent se rattraper. Il y a ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'accomplir. Et nous avec, d'ailleurs. Il y a une sorte d'économie du salut qui consiste à dire, en fait, quand nous donnons la vie à nos enfants, c'est pas un cadeau empoisonné. Il y a à disposition de quoi être heureux, de quoi subvenir à ses besoins et de quoi s'épanouir. Bon, maintenant, si je le redis avec le vocabulaire religieux, la promesse, c'est effectivement qu'il y a une providence divine. Oui, si vraiment j'utilise tout l'arsenal du vocabulaire religieux. La providence divine, c'est que sont pourvus nos besoins essentiels. Et parmi les besoins essentiels, il n'y a pas que remplir le ventre, il y a effectivement la question de la justice, la question de la liberté. Et c'est ça qui va être assumé ici dans ce texte, en fait. Là, on plombe l'ambiance d'un seul coup. Hein. Ça devient grave. Hein. Bon. La remarque de Jean-Robert va être prise en charge au verset 5. Avec le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Allez, sans garder le texte, pourquoi est-ce que ce jour-là, il y en a le double ? Oui, parce que le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, donc on n'a pas le droit de ramasser. On n'a pas le droit de porter, hein, le jour du Shabbat. Donc quand on va à la synagogue, c'est les mains dans les poches. Hein.
Ouais. Et alors ce qui est curieux, enfin, ouais. Intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'ils ramassent comme d'habitude, et c'est quand ils sont devant leur résultat qu'ils s'en trouvent le double. Il y a un aspect miraculeux.
Comment ça, dis-moi. Ah, tu veux dire qu'ils ont pris la même ration que d'habitude ?
Oui. Lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, ils s'en trouveront le double de ce qu'ils ramasseront dans leur jour. On a l'impression qu'ils en auront ramassé sans s'apercevoir.
Ah oui, c'est ça, oui.
Ou qu'il y a eu une multiplication.
C'est ça. Oui, a priori, la...
Le septième jour, non ? Ils ramassent pour le septième jour.
Non ?
Oui, en fait, la traduction, c'est que il y aura deux fois ce qu'ils ramassent jour après jour. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui sera à disposition sera le double de ce qu'il y a d'habitude.
Ça veut dire qu'il y en
étendait
plus.
Ouais. Ouaya et il y aura, Mishne deux fois, al asher liktu, ce qu'il ramassait jour, chaque jour. Donc, ils ne prennent pas la ration quotidienne qui d'un seul coup se démultiplie. C'est qu'ils peuvent en prendre deux fois plus parce qu'il y en a deux fois plus.
Mais ouais. Ce jour-là, ils en étendaient davantage.
C'est ça. C'est ça. Il y a double ration.
Double ration automatique.
Double ration automatique, c'est ça.
Et ça ne veut pas dire que le septième jour, ils n'auront rien à ramasser ? Je comprends ça.
Ils n'auront rien à ramasser le septième jour parce que c'est forbidden.
Voilà.
C'est Shabbat.
C'est ça.
Hein ? Ouais.
Voilà.
C'est interdit.
Voilà.
Par la Torah. Et. Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'ils doivent ramasser, hein, si ce n'est qu'il y a du pain qui doit pleuvoir du ciel. Mais c'est là qu'il y a encore un bon petit décalage derrière les fagots. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures. On veut du pain, et qu'est-ce qu'on a ? La gloire de l'Éternel.
Non, entre les deux, il y a... Vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte.
Mais oui, mais finalement, ce qui est le plus manifeste, c'est la gloire d'Éternel dans un premier temps. Oui. On veut voir Venise, et ben on voit Vesoul. Non, on voulait voir Vesoul et on voit Venise, en fait.
Voilà.
Ouais. Et bien sûr que, comme le disait Roland, en fait, il y a aussi là un enseignement précieux par rapport à la prière, parce qu'en fait, ce texte est une prière, ce texte d'Exode 16. C'est en fait le fonctionnement de la prière, Exode 16. Eh bien, c'est que la prière révèle la part de Dieu. La prière, c'est de pouvoir discerner Dieu dans l'histoire. Et ce qu'on discerne, c'est Dieu qui vous a fait sortir. Et la sortie d'Égypte est un bien absolu, c'est ce qui permet d'advenir et de naître vraiment. Vous connaîtrez que c'est l'Éternel plutôt que vous comprendrez. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel, car que sommes-nous, nous, pour que vous murmuriez contre nous ? Après tout, Moïse et Aaron se sentent pas vraiment en droit de revendiquer la sortie d'Égypte. Eux n'ont fait que transmettre la possibilité. Donc, voir la gloire de l'Éternel en langage biblique, c'est voir Dieu lui-même. Donc, on a d'un côté le peuple qui demande à voir des marmites pleines, et ce qu'il va voir, c'est pleinement l'Éternel. Eh bien, vous voyez, dans une certaine mesure, ici, ce texte lève le malentendu sur ce que la prière permet d'obtenir. C'est-à-dire que d'un côté, on veut du pain et des jeux. Voilà, c'est la demande classique, plus c'est affinité. Et la théologie dit, eh bien, vous aurez la gloire de Dieu.
Mais au verset 10, c'est ce qui se passe.
Oui. Et c'est aussi ce qui se passe avec ce qu'on a dit de la tentation de Jésus dans le désert. Allez, tu vas même un peu prendre, tu vas bien prendre un petit peu de pain à volonté. Non, moi ce que je veux, c'est la justice de Dieu. C'est-à-dire que Jésus ne cède pas à cette tentation bien naturelle qui est d'avoir la formule illimitée, le pain à volonté, parce qu'il sait qu'en fait, c'est peut-être substantiel, mais c'est pas super substantiel. C'est pas très épiousion tout ça. C'est très insuffisant en fait.
Oui. Je peux revenir sur justement la gloire de Dieu.
Oui.
La kevod, c'est ce qui est lourd. En
kevod,
c'est
ce qui est lourd. Oui.
Et ce n'est pas la face de Dieu, c'est kevod, oui.
Oui, ben parce que la face de Dieu, on ne peut pas la voir et vivre. Mais si on prend par exemple Exode 33, il y a justement cette demande de Moïse, « Fais-moi voir ta face ». Et la réponse de Dieu, c'est « T'es bien gentil, mais tu vas aller dans cette anfractuosité, je vais mettre ma main sur tes yeux, je vais passer devant toi, et puis quand je serai passé, j'enlèverai ma main ». Et ce que voit Moïse, c'est les arrières de Dieu, qui sont d'ailleurs les 10 paroles. Et en fait, on dit que la gloire de Dieu passe devant Moïse. Et Moïse dit, j'ai envie de voir ta gloire, effectivement. Et la traduction grecque septante, c'est fais-moi voir toi-même, c'est automne. Donc la gloire de Dieu, c'est compris comme Dieu lui-même. C'est une sorte de périphrase pour parler de Dieu lui-même.
Donc pourquoi, quand justement on demande de voir la face de Dieu, là ce n'est pas possible parce que c'est la mort. Et là, c'est possible.
Oui, parce que
Dieu lui-même.
Oui, Dieu lui-même, c'est pas possible, puisque Dieu va mettre la main sur les yeux de Moïse pour qu'il ne le voie pas directement. Ouais. Et les arrières, en fait, c'est médiatisé, puisque ce sont les paroles qu'il donne. C'est un peu comme la trace. Hein, les arrières, c'est un peu la trace qu'il laisse dans notre histoire. On a les signes à interpréter.
Donc le kevod, ça serait plutôt les arrières, parce que là, quand la Septante se traduit par Dieu lui-même. Voilà, Dieu lui-même, c'est la face et les arrières.
Oui, oui. C'est-à-dire qu'après, il ne faut pas trop faire d'anthropomorphisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer Dieu comme un personnage tel que nous sommes, avec la bonne trombine, et puis le dos, avec juste le numéro et le nom sur le maillot. Quoi.
Non, il y a là quelque chose... Mm-hmm.
C'est-à-dire que quand on voit la gloire de Dieu, on peut se dire que on voit les effets du passage de Dieu dans l'histoire.
C'est pour ça que c'est ce qui est lourd. Parce qu'ils ont quand même utilisé quelque chose qui
Oui, oui. Oui, tout à fait.
Donc ça serait ça.
Ah, oui. Mais lourd parce que dans le Proche-Orient ancien, ce qui a de la valeur est opulent. Mais quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la richesse, il est bien nourri, donc il pèse un peu plus que moi. Et donc il est kavod. Moi, je suis un peu menu comme la manne. Bon, peut-être que là, on peut sauter un peu les versets. Donc, on a dit effectivement que la gloire de l'Éternel, elle paraît dans la nuée. Ensuite, il y a à nouveau tout un dialogue sur la question des murmures, sur « mais oui, vous allez manger, ne vous inquiétez pas ». Et on a au verset 13 « Il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp ». Vous voyez, là, c'est encore un peu un trait d'humour du rédacteur avec cette histoire de couvrir, « kassa ». C'est couvrir comme un vêtement qui couvre la nudité. Et le camp est couvert. Vous voyez, c'est comme si le camp était pris en faute, et en fait, on va le couvrir par pudeur. Alors, bien sûr, je tire un petit peu sur l'interprétation, mais cette histoire de caille qui vient couvrir, ça pourrait un peu évoquer une sorte de vêtement qui vient couvrir la nudité telle que Adam l'avait d'un seul coup vu, par exemple. Adam qui avait eu un petit problème alimentaire, lui aussi, qui avait fait un petit pique-nique, oui. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de petite connexion intéressante, là. Oui. Et arrive cette histoire de couche de rosée autour du camp. Et au verset 14, la rosée fut dissipée, et il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Voilà. Donc là, on va commencer à parler de la manne. Eh bien, il y a une toute petite lettre en hébreu qui est vraiment fondamentale. C'est la lettre Kaf qui est traduite par comme. C'est-à-dire qu'en fait, le plus intéressant dans ce verset biblique, à mon avis, c'est le comme des grains. C'est-à-dire qu'en fait, on est incapable de dire ce que c'est. On est incapable de dire ce que c'est parce qu'en fait, on l'avait encore jamais vu. Donc, on fait un raisonnement par analogie. Ça ressemble à. Le raisonnement par analogie, c'est tout à fait scientifique. Tout porte à croire que et tout fonctionne comme si. Ça marche jusqu'à preuve du contraire. Bon, on essaie de trouver un peu des correspondances pour se dire bon. En grec, c'est de la coriandre cette affaire. Corion. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose d'inattendu dans cette histoire. Et c'est encore du décalage. Une fois de plus, ce qu'on voulait, c'est des marmites pleines de viande, et on sait à quoi ça ressemble un bon ragoût de sanglier, ou une bonne daube de sanglier, plus exactement. Ouais. Eh bien là, on a quelque chose d'inattendu, et effectivement, la réponse divine n'est pas exactement l'espoir que nourrissaient les enfants d'Israël. Et cela nous dit aussi... Quel est l'intérêt du travail de la prière ? Le travail de la prière consiste à découvrir ce qui le recouvre et à comprendre ce qui va être à prendre. Moi, je vous lis dans une formule un peu ramassée. Mais au fond, on peut se dire que la prière, c'est ce qui nous aide à mieux appréhender notre situation et à mieux discerner ce qui est disponible pour faire évoluer cette situation. Et une fois de plus, comme il y a de l'inattendu, comme ça passe pas par là où on pouvait l'imaginer, il faut en fait se dire que la prière ne peut pas fonctionner dans l'isolement le plus total. Parce que quand vous êtes face à quelque chose que vous n'avez jamais vu, voilà, donc vous ignorez tout, ça va être quand même plus facile de comprendre ce que c'est en discutant avec quelqu'un d'autre. en faisant valoir un peu d'intelligence collective, en utilisant l'expérience de l'autre. Et donc, à un moment donné, il va falloir en parler pour un peu mieux comprendre ce qui se passe. Eh bien, c'est ce qui se passe au verset suivant. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Alors, le « qu'est-ce que cela ?» Ça, c'est vraiment une formule littéraire française magnifique, mais qui n'a aucun rapport avec le texte. Et c'est là aussi qu'on découvre à quel point le texte hébreu est astucieux, parce que c'est un texte qui cause vraiment à notre développement personnel. En hébreu, donc, vous avez l'expression « man » ou « man » c'est « quoi » et « ou » c'est « lui, cela, ça ». En fait, c'est « quoi ça ?» Quoi ça ? Et c'est pas « qu'est-ce que cela ?» Oh oh, je m'interroge. Je suis très étonné de ce que je vois. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? Non, quoi ça ? C'est ce que dit l'enfant quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas. Hein, l'enfant a 3 ans. Quoi ça ? Ouais, en tout cas, moi, les miens, ils ont fonctionné comme ça. Et je peux vous dire, quand vous les avez à la main et que vous passez à côté de quelqu'un qui fait la manche par terre et qu'il dit quoi ça, vous êtes bien. Eh bien, c'est exactement ça. C'est la découverte de l'enfant, la découverte de quelque chose qu'il n'a encore jamais vu. Eh bien, les Hébreux sont dans cette situation-là. Ils sont ramenés à leur état d'enfant qui découvre et qui a envie de savoir. Quoi ça ? C'est le début aussi de l'esprit scientifique.
Si les rédacteurs de la Torah avaient mis « c'est quoi ça ?», ils auraient dit « ils
ne
savent pas écrire ».
Et le « c » serait de trop. Ah ouais. Quoi ça ? Ah oui, ah oui, bien sûr. Ouais. Je ne sais pas comment Chouraki l'a traduit d'ailleurs, j'ai fait que je regarde. Ouais. Une lecture très littérale, enfin une interprétation, une traduction très littérale. Et donc, vous voyez, ça frappe les oreilles. Bon, c'est aussi parce que la syntaxe hébraïque est économe.
Est-ce que j'ai bien compris ? C'est
la oui, vous avez tout à fait bien compris. Mais on va nous le dire après. Mais c'est ça. La manne, en fait, c'est quoi ça ? Ah oui, ça change un peu l'idée qu'on se fait de la manne. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Et ben, c'est pas du pain. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voilà. Donc, vous pouvez vous la jouer à la Magritte, ceci n'est pas du pain. Il n'en demeure pas moins vrai que c'est le pain que l'Éternel vous donne. Alors le problème, c'est que c'est pas du pain avec les céréales habituelles. Eh non, c'est du pain un peu épiousion, il faut bien le reconnaître. Il est un peu super substantiel, ce pain. Vous voyez, le pain n'est pas du pain. Eh bien, ce que c'était réellement, ça c'est à vous de le dire, ma chère amie. Mais en fait, c'est peut-être pas dans le désert du Sinaï que les choses se passent. C'est dans chaque étendue entre l'esclavage et la liberté, qui est en fait une zone d'incertitude, un entre-deux très incertain, très inquiétant, très désertique en fait, très aride, très aride, très aride. Vous savez, quand on se sort d'une situation épouvantable, c'est pas encore bien gagné. Prenons tout à fait autre chose, mais quelqu'un qui arrive à se sortir d'une situation conjugale épouvantable et qui a même réussi à obtenir une procédure de divorce correcte. Bon, une fois que la séparation est actée, c'est pas encore gagné. C'est le désert, en fait. C'est-à-dire que les gens vous diront, effectivement, j'ai un poids qui a été libéré, mais c'est épouvantable en fait. C'est l'inconnu et c'est cette expérience-là. enfin l'expérience du peuple dans cet entre-deux. Et donc, on a besoin d'avoir effectivement une nourriture qui va vraiment nous requinquer pour pouvoir arriver dans cette terre promise, disons. Vous voyez, tout ça, ce sont des figures symboliques.
C'est les déserts de nos vies.
Oui, oui, ou de nos campagnes aussi, hein, des fois. Bon.
De nos vies.
Ah oui.
Pas vie.
D'accord.
De nos vies.
Oui, le désert de notre existence.
Oui.
Il y a plein de moments où c'est comme ça.
C'est ça.
Bon. Et, voyez, en fait, on est dans une mythologie. C'est une mythologie. C'est toutes ces expressions. Le pain, même les cailles, le désert, etc. C'est une mythologie au sens d'un discours plein d'images qui renvoie à une réalité qui, elle, est sinon tangible, du moins que nous pouvons éprouver. Donc, l'écaille qui monte sur le camp et qui le couvre, la rosée qui porte du pain comme des graines, voilà, ce sont des images pour exprimer le fait que le pain de Dieu se distingue du pain des hommes. Donc, vous voyez, le côté supersubstantiel, épi ou sion, ici, trouve tout son sens.
Il y a aussi la question, moi je trouve qu'il est très important.
Mm-hmm.
Il y a justement, parce que l'âme, on pourrait se dire, c'est quelque chose qui est reçu, du coup, voilà, il n'y a aucune question, puisque c'est quelque chose, en fait, un don.
Oui.
Alors que là, justement, c'est maintenant, c'est une question, et finalement, rester tout le temps dans cette attitude aussi de questionnement et d'ouverture, justement, à ce qui est autour pour finalement le recevoir.
C'est-à-dire qu'on a souvent l'idée que la prière doit apporter des réponses. Raté. La prière apporte les questions, en fait. Et les questions valent mieux que les réponses. Parce que les questions ouvre les yeux sur des réalités qui jusque-là n'étaient pas dans notre champ de préoccupation. À partir du moment où on a posé les questions, on est sauvé dans une certaine mesure. Mais tant qu'on n'a pas les questions, eh ben on reste sur place. C'est là que l'esprit d'enfance est extrêmement précieux dans ce texte, mais aussi dans la bouche de Jésus qui dit « Le royaume des cieux est pour ceux qui sont semblables à ces petits-enfants. » Parce qu'ils posent des questions, les enfants. Alors, ils sont pénibles. Mais punaise qu'ils ont raison, quoi. Et quand ils posent la même question à 5 personnes différentes qui étaient pourtant dans la même pièce, c'est extrêmement vexant pour les adultes, mais c'est extrêmement précieux parce qu'ils forgent là aussi leur esprit scientifique. Ils croisent les sources. On ne va quand même pas leur reprocher, à l'époque des fake news, de croiser un peu les sources pour vérifier que c'est juste. Puis c'est comme ça aussi qu'on édifie sa confiance auprès de l'adulte qui effectivement nous dit la vérité. Bah, c'est magnifique. Soyons un peu tenaces. Résistons à la tentation de dire « Tu l'as déjà demandé à ta mère. » Voilà. Bon, donc, vu qu'il nous reste plus de temps, je finis en disant deux choses. La première, c'est qu'effectivement, c'est ça qu'on appelle la manne. Et c'est ce qu'on trouve tout en bas, au verset 31. Et on dit d'ailleurs qu'elle a effectivement... ça ressemble à la graine de coriandre. Corion en grec. Donc en hébreu, man, ça vient de man ou quoi ça. Donc de quoi les hébreux vont-ils se nourrir? Ils vont se nourrir de quoi ça. Ils se nourrissent de questionnement. Alors ça peut prêter à sourire, mais ça fait la différence. Et dans une certaine mesure, quand on reproche à des croyants d'être un peu dans le registre du doute, ils sont pas dans le registre du doute, ils sont dans le registre de la question, de l'interrogation, du questionnement, comme c'est le cas ici, et bien sûr que c'est du doute, mais c'est pas négatif, c'est pas voilà, c'est extrêmement positif. À l'ombre du doute, il y a la foi en fait. Oui, c'est ça. Et c'est constitutif de la spiritualité telle qu'elle est formulée dans la Bible hébraïque. Bon, et puis ensuite, on parle aujourd'hui beaucoup d'obsolescence programmée, et on dit c'est mal. Et ben c'est exactement ce qui se passe pourtant ici. Moïse leur dit, au verset 19, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Alors évidemment, comme ils n'en font qu'à leur tête, ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chair du soleil, cela fondait. C'est de l'obsolescence programmée. Et vous voyez, ça a moins de durée de vie que Apple. Donc, ne crions pas trop sur Apple, hein, voyons pas la paille qu'il y a chez Apple avant de voir la poutre qu'il y a dans notre propre tradition. Enfin, je dis Apple, je dis d'autres, hein, mais bon, ça pourrait être d'autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un rapport au temps, à la temporalité, qui est effectivement très spécifique. Hein, tout à l'heure était évoquée la question du carpe diem. Cette idée sur laquelle ça devrait durer pour toujours, c'est pas biblique en fait. Ouais. Cette histoire de permanence, c'est pas biblique là. Ce qui est biblique, c'est un rapport juste au présent. Être présent au présent. On sait avec la femme de Lot que quand on est un peu trop obsédé par le passé, l'addition est assez salée. On sait ici que quand on a peur de manquer et qu'on est obsédé par ce qui va arriver demain, ça pourrit et il y a des vers. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal de faire le plein pour aujourd'hui. Ouais. La cueillette, au verset 18, elle dit que nul n'a de trop, nul ne manque. Ouais, au verset 18, nul n'a de trop, nul ne manque. Alors qu'en fait, souvent, l'espoir humain, c'est la corne d'abondance. Et on pourrait se servir en illimité. Et il y a une... C'est un peu ce que certains documentaristes observent aux États-Unis. Une sorte de société de surconsommation qui a des conséquences quand même néfastes sur les organismes. Et sur le champ social, d'ailleurs. Donc... Cela nous dit que non seulement la réponse divine n'est pas sur le plan matériel, mais que la quantité n'est pas sans rapport avec les besoins réels. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur la quantité. Et donc la justice, elle est aussi bien sur la question de la nature que sur la question du volume de la quantité. Ouais. Voilà, voilà. Bon, après, il y avait tout un développement qu'on pourrait faire sur le Shabbat, parce que toute la fin qu'on n'a pas lue d'ailleurs parle du Shabbat, qui est effectivement très structurant. Je dis juste une chose, c'est que le Shabbat, c'est le jour vide, c'est le jour creux. C'est le jour du manque que nous ne comblons pas nous-mêmes. C'est un jour extrêmement structurant par l'absence, en fait. C'est le jour sans travail, mais ça va loin, l'idée du travail. Parce que on n'utilise pas de téléphone mobile, par exemple. On ne va pas consulter ses emails, parce que ça va contre l'esprit du Shabbat. Et du coup, c'est le jour où... Ça, c'est ma théorie, en fait. C'est le Shabbat comme hygiène spirituelle, comme hygiène de vie... Parce que c'est le jour pour vérifier nos addictions. Est-ce qu'on peut vivre un jour sans cigarette? Est-ce qu'on peut vivre un jour sans appeler sa mère? Est-ce qu'on peut passer un jour sans acheter? Est-ce qu'on peut passer un jour sans... Oui, etc., etc., etc. C'est juste pour faire le point. Vous voyez, c'est une sorte de mise à l'épreuve. On s'évalue pour voir où on en est de nos dépendances. Ouais, oui. En tous les cas, c'est vérifier sa disponibilité, vérifier sa liberté. En fait, c'est le jour pour mesurer ses degrés de liberté. Eh bien, c'est exactement ça. Ben, c'est, en fait, c'est une autre façon de dire Shabbat. Alors on dit c'est le jour où Dieu s'est reposé, c'est aussi le jour où du coup on peut vérifier si on est, si on a ce fantasme d'être indispensable. Vous voyez, on peut se dire mais il faut que je travaille tous les jours parce que l'entreprise va pas pouvoir vivre sans moi. Si quelqu'un est dépendant de nous, c'est un autre problème. et ainsi de suite. Oui. Donc, un jour pour mesurer la liberté qui est le projet divin. Donc, de ce point de vue-là, c'est un jour saint, c'est-à-dire que c'est un jour qui permet de mesurer, d'évaluer la sainteté de notre vie quotidienne. Voilà pour le pain quotidien. Donc, quand vous priez cette formule du Notre Père, comme d'habitude, vous faites ce que vous voulez, vous pensez à ce que vous voulez, mais dites-vous bien qu'il peut y avoir cette idée selon laquelle il s'agit, en fait, de se demander ce dont nous avons besoin et de le cueillir dès à présent, sans attendre demain, ni sans en prendre plus, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à en faire quoi que ce soit. Et peut-être que ce que nous prenons en plus, c'est quelque chose qu'un autre n'aura pas. Vous voyez ? Voilà, on ne va pas épiloguer parce que c'est le moment, mais vous avez à peu près compris la philosophie générale, c'est bon ? Super, on pourra passer à autre chose la prochaine fois.